Vous écoutez RTL.
L'histoire, comme le dit Patrice Lecomte, ne serait pas celle que nous connaissons aujourd'hui sans ces personnalités hors du commun, parfois rêveuses, parfois simplement horriblement sanguinaires. Mmh. Alors on fait un tour du côté des zinzins de l'histoire.
Allez, voilà
avec
les
vous. Gavise Clémente Ruiz, bonjour.
Bonjour,
vous
bienvenue.
Vous avez recensé un grand nombre de timbrés, hein, de personnalités qui ont essayé de jouer un rôle dans l'histoire. Quel point commun elles ont, toutes ces personnalités?
Ils sont tous frappés. Hein. C'était ça le point commun. Je suis parti d'un constat très simple en parlant avec mon éditrice un jour. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment des fous, des fous alliés. Mais il y a des degrés de folie. Et donc, je me suis amusé à les classer du plus léger, de la folie douce, de la plus sympathique, on va dire, les doux rêveurs, et jusqu'à la folie la plus sanguinaire, la plus meurtrière.
Eh bien, on va faire ce voyage avec vous, effectivement. Une sympathique baronne de doux rêveurs, comme vous dites, qui s'imagine traverser l'Europe sur des échasses, pourquoi pas, mais aussi un empereur chinois beaucoup plus sanguinaire, effrayant. On va vous faire découvrir ces personnages, ces zinzins de l'histoire.
RTL. Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
Si l'on se souvient encore aujourd'hui de ces personnalités, c'est parce qu'elles étaient complètement dérangées.
La curiosité est un vilain défaut.
On se penche sur ces zinzins de l'histoire. C'est le petit nom que vous leur donnez, Gavise Clémente Ruiz. Vous êtes auteur et vous racontez leur destin étonnant dans votre livre paru aux éditions du Chêne. Alors on va commencer.
On se déhanche un peu sur Thierry Pastor aussi.
Mais vous adorez ça, Thomas, mais bien sûr. Hein, alors on va commencer Meringue Chantilly, on va commencer Chamallow, on va commencer Doux Rêveur. Mm-hmm. Il y a un personnage étonnant, c'est cette baronne de Königswater.
Ah oui, je l'aime
qui
beaucoup.
Est-elle?
Et pour la petite histoire, j'ai entendu son histoire en écoutant RTL, les grosses têtes,
mais
très précisément.
Toujours,
ça m'avait touché.
Très bonne source.
Très bonne source. Et en fait, j'ai creusé parce qu'elle m'a intrigué. Nick, on l'appelle, c'était son petit surnom. Mmh. Elle était résistante durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a traversé la Manche en avion. Elle a un parcours hallucinant. Et ensuite, elle a épousé un riche monsieur. Et elle est partie s'installer à New York, à l'hôtel Stanhope. Mmh. Et là, elle est devenue la muse de Thelonious Monk, par exemple, des jazzman. Ouais. Du coup, je l'ai appelée la baronne qui fait jaser. Le petit sous-titre.
En quoi est-elle un peu dingue ou très dingue?
En fait, elle est devenue complètement. Elle avait un parcours, une stature, un rôle social assez établi. Mm-hmm. Et tout d'un coup, elle est devenue complètement en désaccord avec sa famille. Et elle a vrillé. Et elle est partie s'installer à New York. Elle a rompu avec sa famille française. Et elle est devenue complètement folle de jazz. Et donc, elle allait garer sa Bentley devant le Village Vanguard à New York. Et elle donnait plein d'argent à tous ces messieurs qu'elle aimait
beaucoup.
Elle
faisait
grosses fêtes dans sa chambre d'hôtel. Elle s'est souvent fait... disputer pour pas dire autre chose, même elle va se faire expulser. Charlie Parker va mourir dans sa chambre. Donc voilà, c'est plein d'histoires assez. Elle a un parcours qui m'a fasciné.
Alors, il y a un autre personnage qui vous et qui nous fascine. On parlait de ce projet dingue de traverser l'Europe. Il s'appelle Sylvain Dornon. Il était boulanger et son projet est dingue. Pourquoi ?
Bon, c'est mon chouchou, Sylvain. Il a voulu traverser l'Europe. Il a fait Paris-Moscou sur des échasses. Tout simplement.
Okay.
Imaginez, ça pèse de plus de 3 kilos et quelques l'échasse. Hein. Ouais. Et il a, c'est un coup de tête, c'est un
mais
pari.
Non, mais pourquoi
au début, alors en fait, il voulait vanter les mérites de sa région des Landes, de son côté berger. Il était boulanger aussi. Mmh. Et pour l'Expo universelle de 1889 à Paris, il s'est dit tiens, je vais monter en haut de la Tour Eiffel, tout simplement.
En échasse.
Il l'a fait. Et ensuite, là, il y a un journal qui l'a repéré, l'illustration. Ouais. Était dans le quartier de la rue de Rouault à Paris. Et ensuite, ils lui ont dit bah, on va financer ton parcours.
Un
sponsor. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et ensuite, ils l'ont suivi, ils ont essayé de le suivre. Ce qu'il y a, c'est qu'en route, il était quand même un peu seul. Il a eu assez froid. Certes, il avait son béret, il avait des grosses tenues de laine, mais il arrivait à Moscou en quelques semaines. Hein. Ça a été assez rapide. Mais en route, il a croisé plein de gens. Les Allemands étaient un petit peu.
Oui, il s'est fait jeter des cailloux cailloux par les Allemands quand même.
Un petit peu jeter des cailloux, plus que ça. Même.
Pourquoi ils n'aimaient pas les échasses
Surtout, on sortait de la guerre de 1870.
Ah, voilà, une bonne
et donc, les Français n'étaient pas les bienvenus.
Donc, il termine sa traversée
à Moscou,
un peu en mauvais état.
Et en mauvais état, il est plein de gelures, plein de problèmes physiques. Mmh. Il rentre en France et là, il devient incognito complètement. On ne le rappelle pas. Il disparaît. Il redevient boulanger et il repasse dans l'anonymat total.
C'est ce qui vous fascine dans ces personnages, le fait qu'ils soient sortis de leur univers, dingue, mais aussi un peu rebelle, c'est ça.
En fait, ce qui me plaît, c'est comment, à partir d'un moment, on peut vriller complètement dans la vie, passer de l'autre côté de la ligne de crête et la folie et la raison. Est-ce que c'est vraiment ça peut être vraiment très très proche parfois.
Ouais, ils sont fous, drôles, farfelus ou sanguinaires, mais ils ont fait l'histoire. Voilà, c'est le sous-titre de votre livre publié aux éditions Duchesne, Gavin Clément Ruiz. On va raconter maintenant l'histoire de cet empereur chinois en quête d'immortalité et gêné par quelques montagnes. Il a imaginé une solution un peu coûteuse en homme. A tout de suite sur RTL.
Quelle journée, monsieur le baron.
RTL.
Si nous allions à Baden-Werder.
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce que vous nous ménagez, monsieur le baron? Nous n'allons pas atterrir dans une autre planète?
Nous approchons de la Lune. Tu aurais peut-être préféré Vénus.
Anaïs Bouton.
Parfait. Et qui l'accompagne?
Thomas Hugues.
Mais vous êtes fou. Oh oui.
Toujours les mises en onde de DJ Latouche, notre réalisateur. Alors on vous raconte les zinzins de l'histoire avec Gavin Clément Ruiz. J'ai du mal à dire votre
nom. Oui, mais en même temps, c'est assez normal, hein, vous inquiétez pas. Ne pas la première,
vous allez compliquer les choses, enfin vos parents en tout cas.
Ces personnalités, on vous raconte ces personnalités étranges, sanguinaires, qui se sont un jour senties investies d'un destin, disons, d'une mission. Alors avant de s'attaquer aux vrais méchants, on va vous raconter cette femme qui est quand même incroyable et magnifique, Nour Inayat Khan. Alors qui est-elle?
Elle a un parcours hallucinant, c'est d'une princesse. Elle est née d'un sultan, son grand-père était sultan indien. Son père était musulman soufi, donc l'ésotérisme. Et elle est née à Moscou, élevée en Angleterre. Elle est devenue psychiatre pour enfants. Elle a écrit des livres pour enfants. Elle jouait de la harpe comme une déesse. Et alors, j'ai vu des photos, elle était mais divinement belle. Et ensuite, elle prenait le pacifisme à la Gandhi. Elle était fan de Gandhi. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va tout simplement s'impliquer dans la résistance. Et elle va avoir un rôle très sérieux.
Femme courageuse, comme la baronne dont on parlait
exactement,
tout à l'heure.
Exactement, c'est vraiment des femmes qui ont une foi énorme dans leur mission, destin, vous avez dit, leur envie de défendre des idées.
Bon, mais alors ça, on trouve ça super, mais pourquoi vous la classez dans les zinzins de l'histoire, parce que c'est le titre de votre livre?
Je l'ai mise dans les déterminées, dans les femmes.
D'accord.
qui ont et des hommes, hein, parce que j'ai essayé d'être à égalité, hein, 47 portraits, hommes-femmes quasiment à égalité.
Bravo. C'est bien la parité.
Ouais, je voulais.
Alors, Emmanuel Macron, Édouard Philippe qui prépare le gouvernement.
Oui, alors ils réussissent moins bien. Ouais.
Ça dépend de la qualité du poste, on va dire ça comme ça. Les ministres d'État, effectivement, ils sont plutôt mal.
Et donc, on l'a classée dans cette catégorie de personnes. Et ensuite, elle est arrivée...
Dans l'armée. Elle va être parachutée au-dessus de Paris,
Près d'Angers. Et là, elle va risquer sa vie en essayant d'envoyer des messages pour les équipes anglaises et pour les équipes françaises de la résistance. Et là, elle va être prise par les Allemands. Elle va se sauver deux fois, elle va en réchapper. La dernière fois, elle n'en réchappe pas, elle part à Dachau, elle va finir brûlée. Et en fait, elle va avoir des médailles, elle va être vraiment très reconnue par rapport d'un côté indien, d'un côté anglais, d'un côté français.
Donc c'est une déterminée d'histoire.
Ah oui, je trouve. Voilà. Elle mérite un film, hein. Il faudrait peut-être en reparler à Patrice.
Patrice, si tu nous écoutes, il est peut-être dans sa voiture en train de quitter RTL. Alors là, voilà. On a dit depuis tout à l'heure qu'il y a aussi des effrayants dans votre livre, Gavin Clément Ruiz. Et voici cet empereur chinois. Pardon pour la prononciation. Moi, je vais dire Qi Chi Wang. On est à quelle époque et c'est quel type d'empereur?
Oui, alors j'ai trouvé la traduction littérale. C'est premier auguste souverain. C'est le premier empereur chinois, tout simplement. On est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Et on peut encore aller aujourd'hui voir l'un de ces monuments les plus fastueux, les plus monumentaux. c'est à Xi'an. C'est là où vous avez la fameuse armée de terre cuite avec les chevaux.
Les milliers de soldats.
Exactement. Parce que cet homme était un peu, il était complètement zinzin. Et donc il était mégalo, parano. Il pensait qu'il allait être tué tous les jours. Mmh. Il changeait de lit plusieurs fois par nuit. Et parce qu'il pensait qu'on allait vraiment le zigouiller. Et donc il avait tous ses opposants. Il passait le fil de la.
Donc il les éliminait.
Il les éliminait.
Parce que ce lieu, c'est un mausolée en fait. Mausolée.
Il n'a pas que des travers. Cet homme, il a réussi à constituer le premier royaume empire chinois. Il a fait beaucoup de routes. Il a réussi à unifier, on va dire, la Chine. Et ensuite, pour maintenir son pouvoir, il a tué des hommes, les opposants. Il a fait plein d'autodafés. Il a fait plein de choses que j'essaye de relater dans cet ouvrage. Mais surtout, et après, il est devenu complètement parano. Il pensait qu'on allait le tuer tous les quatre matins. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'éternité. Il pensait qu'il pourrait un jour peut-être trouver l'éternité dans l'au-delà. Et donc, son armée de terre cuite était là pour le protéger. Et ils sont plus de 6000 hommes qui le protègent dans Xi'an.
Alors, l'éternité, il va la chercher partout. On vous raconte ça tout de suite sur RTL. Il est question de rasage d'une montagne.
Allons bon.
La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues.
Ses contemporains le surnomment le roi fou.
Anaïs Bouton.
Oh, c'est des malades. C'est des malades. C'est un fou.
Moi aussi, on est fou. Sur RTL.
Et qui sait, peut-être que les musiciens du premier empereur chinois lui jouaient la sérénade, mais n'osaient sûrement pas lui dire tu es fou, parce qu'on raconte son histoire, il fait partie des zinzins de l'histoire. Gavin's Clement Ruiz, vous êtes l'auteur de ce livre publié aux éditions du Chêne. Donc on était avec cet empereur, le premier empereur chinois, qui, à peu près comme tous les dictateurs, est devenu parano, mégalo, et un des exemples de sa mégalomanie, c'est sa démarche de trouver un élixir de vie. Qu'est-ce qu'il entreprend pour ça?
Il va tout simplement se rendre compte qu'à 40 km de son palais, il y a une peuplade qui aurait trouvé le secret de la longévité, de l'éternelle jouvence. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tracer la route, et il va employer des centaines, des milliers, des centaines de milliers même d'hommes qui vont aller creuser la route pour aller trouver au-delà des 40 km. Il y a même une montagne, donc il se dit on va monter la montagne. Ils vont construire plus des milliers de 36 000 marches, 36 000 marches
pour monter au sommet.
Tout au sommet. Et au sommet, il n'y a rien.
Il n'y a personne.
Et donc, il n'y a personne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, il va raser la montagne.
Mais vraiment?
Mais oui, rase. Il coupe la montagne. Il rase la montagne. Donc, il va la faire sauter.
Des centaines de milliers d'hommes qui ont, et dont certains ont dû forcément mourir dans ces travaux titanesques pour assouvir la folie d'un empereur.
Exactement. Il va la peindre en rouge, très précisément. Parce que c'était c'était une couleur des forçats, la couleur du mal, donc il va la peindre avant et hop, il va la raser.
Alors,
aussi simple que ça.
Oui, dernier facile. Tableau, très très simple. Écoutez, en rouge comme RTL.
Beaucoup plus positif le nôtre. Hein, c'est, voilà.
Alors, dernier tableau de cette drôle galerie de personnages, c'est une femme qui croyait aux forces de l'esprit. Alors, qui est Lozen?
Lozen, c'était une apache en Amérique. Elle a lutté contre les Indiens d'Amérique, contre les Mexicains. Et en fait, pendant 4 jours et 4 nuits, avec son frère Vittorio, elle est montée en haut d'une montagne, encore une fois, mais cette fois, elle a trouvé une espèce de foi, de croyance. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qui faisait que, une fois sur le terrain, elle ressentait la position de l'ennemi dans ses paumes de main. Donc là,
l'important, c'est d'y croire.
Voilà où se niche la folie, selon moi. On y croit, et en fait, elle arrivait grâce à ses talents, à ce côté inné de sa personnalité. Et grâce
après avoir jeûné 4 jours dans la montagne.
4 jours, 4 nuits, exactement.
Anaïs, vous avez... Il faut tenter ça, Thomas.
Petite séance de jeûne. Moi, j'ai quelques kilos à perdre, ça ne peut pas me faire de mal.
Son frère disait même que c'était l'un de ses plus courageux guerriers.
Ouais. Il l'a trouvé bien plus forte que lui, d'ailleurs, il le disait. Et son frère va mourir, et elle va prendre le relais auprès des autres chefs indiens. Elle va être c'est une femme célibataire, elle aurait eu un...
Mais pourquoi?
Elle a eu un chagrin d'amour avec Lou Gris, il s'appelait.
Et Lou Gris, like le loup, le wolf, le ouh.
Oh, exactement. Hein. Lou Gris, enfin, c'était son
très bonne imitation de loup. Signé Anaïs Bouton. Je pense qu'on peut l'archiver, celle-là.
ça va ressortir.
Donc elle était amoureuse d'un loup.
D'un loup, d'un homme hein, qui s'appelait Loubri.
Ah d'accord, parce que j'avais pas bien compris.
Ça serait votre petit surnom si vous voulez, Thomas.
Loubri, non, bah, ça oui, me va très bien avec mes tempes grisonnantes, bien sûr, évidemment. Donc elle était complètement dingue.
Ouais, elle était pas. Elle était pas
vous la classez net, où hein. dans votre galerie de portraits
Je l'ai mise dans les déterminés. Si
ah
je,
bon, quand même.
Ou farfelu, non, déterminé.
Vous êtes tolérant.
Comment elle est morte, elle?
Elle a eu la tuberculose.
Ah ouais. Bon. Merci beaucoup.
Ah bah non, tiens, on a encore un peu de temps quand même. On a une petite minute pour les zinzins de l'histoire. C'est lequel votre préféré?
Sylvain Dornon, avec ses échasses, il me fascine. Moi, j'adore.
Pourquoi?
Parce que je trouve qu'il est complètement. C'est génial de se dire, tiens, je vais faire. Imaginez, demain, vous partez, vous faites Paris-Moscou sur des échasses.
Non, j'imagine pas du tout. Moi, j'ai fait trois marathons dans ma vie. Déjà, j'étais très fier de mon exploit.
Je trouve ça magique. Moi, bon. Ça me fascine.
Et bah voilà. Merci beaucoup. Les zinzins de l'histoire, c'est publié aux éditions du Chêne avec des illustrations. Signé Vassim, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.